VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 17h en temps universel, 19h à Bujumbura. Bienvenue à l'écoute de ce tour d'horizon de l'actualité en 10 minutes. Le Burundi, pour ouvrir, le président du pays, Pierre Nkurunziza, sorti victorieux d'une tentative de coup d'État, a remercié ce vendredi les forces de défense et de sécurité pour leur efficacité et leur rapidité à stopper le putsch. Dans un discours publié sur le site de la présidence, il a également annoncé la réouverture des frontières du pays. Il a par ailleurs établi un lien entre le groupe de putschistes et les soulèvements en cours. Une référence aux manifestations d'opposants à sa candidature. Un troisième mandat présidentiel. Trois généraux impliqués dans ce coup d'État avorté ont été interpellés. Georges Ebion.
Parmi les officiers arrêtés figurent un général de police et deux généraux d'armée, dont l'ancien ministre de la Défense Cyril Ndayikuriye. Pierre Nkurunziza est rentré au Burundi jeudi, quelques heures après une déclaration du chef d'état-major de l'armée, faisant état de l'échec du coup d'état fomenté la veille. Une foule était massée sur la route pour le féliciter et chanter des chansons à sa gloire, selon l'AFP, citant la radio nationale à la mi-journée. Le chef de l'état a finalement quitté Ngozi sans s'exprimer. Des proches avaient affirmé un peu plus tôt qu'il s'adresserait depuis sa ville natale au Burundais dans une allocution retransmise par la radio et la télévision nationale burundaise. Selon l'entourage du chef de l'état, il est toujours prévu qu'il s'exprime ce vendredi. Pendant ce temps, des manifestations d'opposition à un troisième mandat de Pierre Nkurunziza ont repris ce même vendredi à Bujumbura, la police tirant en l'air pour disperser les contestataires, quelques heures à peine après l'échec de la tentative de coup d'État. Un journaliste de l'AFP a vu la police disperser à coups de tir de sommation des centaines de manifestants dans les rues du quartier périphérique de Musaga, dans le sud de Bujumbura, rassemblés par groupes de quelques dizaines autour de barricades.
Oui, nous l'avons compris, le coup d'État a donc échoué à Bujumbura. Le pouvoir burundais a tremblé mais n'a pas vacillé. Que faut-il attendre des prochaines semaines et notamment des élections? Nicolas Pineau a joint Thierry Vercoulon d'International Crisis Group.
Il y a une très très grande peur à Bujumbura en ce moment. Donc il est très difficile de prédire ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais je crois qu'un des éléments importants va être de savoir si l'opposition va reprendre ces manifestations de rue contre la candidature du président Nkurunziza ou si au contraire elle va faire maintenant profil bas.
Pourquoi ce coup d'État n'a pas marché selon vous ?
Ce coup d'État n'a pas marché pour, à mon avis, deux raisons. La première, c'est évidemment que les putschistes n'ont pas réussi à rallier assez d'unités militaires derrière eux. La population et l'opposition qui manifestaient à Bujumbura depuis trois semaines n'ont pas rejoint le mouvement également. Ils n'ont pas pris, si je puis dire, la rue à Bujumbura.
Thierry Vercoulon d'International Crisis Group, jointe à Nairobi. Analyse et commentaires sur cette situation tout à l'heure dans Le Monde Aujourd'hui. Au Mali, signature d'un accord de paix hautement protocolaire à Bamako ce vendredi, devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains, mais absence de la rébellion à dominante Touareg qui réclame des pourparlers supplémentaires. Accord qui vise à instaurer une paix durable dans le nord du pays, paraphé hier à Alger, au bout de deux mois et demi de pression et d'atermoiement. La coordination des mouvements de la Zawad a prévenu hier qu'elle ne viendrait pas le signer. À Ménaka, toutefois, des combats continuent. Kassim Traoré.
Le Mali, le groupe d'autodéfense se réunit au sein de la plateforme. Les pays de la médiation, la France, vont signer l'accord de paix et de réconciliation au Mali. Une grande cérémonie qui réunit 10 chefs d'État africains, parmi lesquels Robert Mugabe, président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame du Rwanda et l'Ivoirien Alassane Dramane Ouattara. La coordination du mouvement de l'Azawad a envoyé ses représentants à cette cérémonie. Mais ils ne vont pas signer le document, même s'ils ont donné. La CMA demande la réouverture des négociations. Pour la communauté internationale, cela n'est pas possible. Mais toutefois, les portes de la signature leur seront ouvertes. Pour bon nombre de Maliens, la signature de cet accord doit être synonyme de paix. Mais tel ne sera pas le cas, car les groupes d'autodéfense ont été attaqués ce matin à Ménaka par les hommes de la CMA. Ça s'est passé dans la localité de Tine Fatima, située à 65 km de Ménaka, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Toujours dans l'actualité africaine, en Somalie, Al-Shabaab a capturé deux bases appartenant au gouvernement dans la région du Bachabel. Le point avec Camille Gros-Didier.
Le gouverneur du Bachabel, Abdulkadir Mohamed, a dit à la Voix de l'Amérique que des miliciens lourdement armés ont lancé des attaques contre les villes d'Oudegle et de Moubarak tôt vendredi. Ces localités sont situées à environ 75 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio. Plusieurs soldats gouvernementaux auraient été tués au cours de l'attaque. Le gouverneur a dit qu'il mobilisait ses troupes pour reprendre le territoire. Les sites attaqués étaient gardés par des troupes de l'Union africaine jusqu'à il y a 2 mois. Lorsqu'elles sont parties, la sécurité a été transférée à des soldats somaliens. La semaine dernière, le secrétaire d'État américain John Kerry a effectué une visite sans précédent en Somalie, où il a rappelé que les États-Unis sont prêts à aider à former l'armée somalienne et à y intégrer des forces régionales.
Un tribunal sud-africain a condamné ce vendredi 2 hommes à la prison à vie pour le viol et le meurtre en avril de sœur Stéphanie, une religieuse autrichienne de 86 ans, agressée dans son couvent. Crime qui a profondément choqué le pays. Merci Jésus, se sont exclamées des amies religieuses de la défunte. Après le verdict, rapporte l'AFP, les 2 hommes, l'un 25 ans et l'autre 26, qui avaient affirmé être ivres au moment des faits, n'ont montré aucun remords. A regretté la juge du tribunal de Pietermaritzburg. À Madagascar, Lalao, l'épouse de l'ex-président déchu Marc Ravalomanana, s'est portée candidate ce vendredi pour le poste de maire d'Antananarive, la capitale, joute qui sera parmi les plus disputées lors des élections municipales du 31 juillet, rapporte l'AFP. Lalao Ravalomanana, 62 ans, est venue en personne accompagnée de son époux, de tout l'entourage politique du couple ainsi que de ses partisans, remettre ses dossiers à l'organe de vérification et d'enregistrement des candidatures à Antananarive.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Plusieurs centaines de migrants en perdition ont été secourus ce vendredi au large de l'Indonésie. Parmi eux, on compte notamment de nombreux Rohingyas, membres d'une minorité musulmane de Birmanie, figurant parmi les plus persécutés du monde, selon l'ONU. Jusqu'à 8000 personnes, Salwa Jaafari, dérivent ainsi en mer, menacées de mourir de faim ou de maladie.
Le Rafio était en perdition depuis 2 mois. À son bord, 300 personnes affamées, exténuées. Un drapeau noir flotte sur son mât en signe de deuil. Une dizaine de passagers sont morts en route. Leurs cadavres ont été jetés dans l'océan Indien. La mer d'Andaman s'est transformée en une Méditerranée de l'Asie traversée par des groupes toujours plus nombreux de migrants musulmans venus principalement de Birmanie, parfois du Bangladesh, dans l'espoir d'une vie meilleure en Malaisie ou en Indonésie.
Je ne veux pas retourner au Bangladesh, nous sommes très pauvres.
La Thaïlande, de longue date accusée de laisser faire ce trafic d'êtres humains sur son territoire, vient de réagir en convoquant le 29 mai un sommet d'urgence avec une quinzaine de pays concernés. Phil Robertson, directeur adjoint de Human Rights Watch, Asie, explique.
Il faut qu'il y ait une concertation entre les gouvernements. Il faut arrêter de jouer un ping-pong humain avec les gens et leur permettre d'accoster.
Entre-temps, la proposition du gouvernement thaï de construire des refuges pour les rescapés déchaîne déjà l'hostilité des populations locales qui n'ont nulle envie de cohabiter avec ce qu'ils considèrent des parias.
Ici même, aux États-Unis, les 12 jurés qui délibèrent depuis mercredi sur le sort de l'auteur des attentats de Boston, Jokhar Tsarnaev, doivent remplir un formulaire compliqué de 24 pages, divisé en 8 sections. Ce sont les mêmes jurés qui avaient décidé le 8 avril, après 11 heures de délibération, que Tsarnaev, 21 ans, était coupable des 30 chefs d'accusation retenus contre lui pour les attentats qui avaient fait 3 morts et 264 blessés le 15 avril 2013. 17 sont passibles de la peine capitale. Ils doivent maintenant choisir entre peine de mort et réclusion à perpétuité. Et puis, très rapidement, en Israël, le nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou, l'un des plus à droite de l'histoire du pays. Monsieur Netanyahou a finalement obtenu hier soir, par la plus étroite des marges, la confiance du Parlement pour son gouvernement. Lors du premier conseil des ministres, il s'en est tenu à des propos assez vagues pour ne pas alarmer les capitales étrangères. Au même moment, le président américain Barack Obama émettait un signal clair en affirmant qu'une solution à 2 États est donc la création création d'un État palestinien coexistant avec Israël était absolument crucial. Point final à ce journal. Rendez-vous dans 20 minutes avec Morgane Guerriec et Chérubin Dorsil pour Le Monde aujourd'hui. Une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Voilà, c'était Jacques Aristide à Washington. Bon week-end, à très bientôt. Take care.